Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là en ce samedi soir pour entendre Franck Bouys nous parler de poésie et de littérature. On le reçoit à l'occasion de la parution de son recueil de poèmes « Fenêtres sur Terre » aux éditions Phébus. Franck Bouys, on vous connaît d'abord et avant tout comme romancier, notamment dans les derniers romans « Né d'aucune femme » qui avait paru à la Manufacture et « Buveur de vent » qui avait reçu le prix Jean Giono. Et c'est pas anodin qu'un roman comme ça reçoive ce prix-là, puisque entre Jean Giono qui tenait à sa terre, mais ce n'était pas un régionaliste, et on en parlera aussi. D'ailleurs, il y a son portrait sur votre bureau, William Faulkner, deux écrivains, Giono et Faulkner, qui ont une terre précisément, un territoire, mais qui en font autre chose. Alors, pour démarrer, moi, ce qui me frappe, c'est que pour tous ceux qui vous connaissent et qui ont déjà lu vos romans sont remplis de cette belle prose poétique, de ces éclats de poèmes. Est-ce que déjà, lors de l'écriture et de la construction de vos romans, vous aviez l'impression comme ça d'intégrer une sorte de poésie qui n'en avait pas la forme, mais qui était coulée dans vos phrases?
Bonsoir. Je me demande en fait si j'intègre de la poésie dans mes romans ou si j'ai extrait de la poésie de mes romans. Un peu comme un chercheur d'or. Parce que j'ai mis du temps. Là, c'est pas du tout des fulgurances. C'est pas que de la poésie. Il faut préciser quand même qu'il y a pas mal de textes en prose. Il y a des hommages à des auteurs que j'admire. Aussi bien, il y a évidemment Faulkner, mais il y a Bachung, il y a Soulage. Mais je peux y revenir des semaines pour écrire trois lignes, quoi. Vous verriez mes carnets, il y a des flèches partout. C'est pas du tout de. Il y en a qui jettent ça comme ça, qui jettent les mots et ça devient des espèces de fulgurances comme ça. Moi, c'est pas du tout le cas. Comme dans les romans, je travaille beaucoup. C'est toujours le même artisanat. Après, pourquoi je me serais interdit ça à un moment donné? J'ai une chance folle, c'est de pouvoir le faire, c'est-à-dire d'avoir un éditeur qui me permette de le faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Après, la poésie fait toujours un petit peu peur. On a une espèce de déférence très, très française. Les Américains, ils n'ont pas ça du tout. Ils commencent souvent par la poésie, d'ailleurs. C'est quoi? C'est essayer de comprimer comme ça une image. Moi, ce qui m'obsède dans ce que j'écris, c'est de faire surgir des images, mais mes images à moi. C'est-à-dire pas... vous parliez tout à l'heure de la Provence de Giono ou du sud de Faulkner. C'est pas la Provence. C'est pas le Mississippi. C'est le leur. C'est ce qu'ils en ont fait. Giono était obsédé par le brouillard, par la pluie. C'était plutôt un simenon, mais il faisait avec le soleil et la chaleur. Il faisait avec cette terre-là. Mais ce qui est formidable, c'est justement d'imposer ses propres images et de pouvoir rencontrer les lecteurs à partir de ça. Donc, si j'ai pu amener des lecteurs, si je peux amener les lecteurs dans mon champ de vision, avec mes couleurs, mes odeurs, mes transparences, mes obscurités, c'est pas mal.
Vous travaillez aussi sur le silence, il y a comme une sorte de patte musicale, et ça m'a frappé dans Buveur de vent, au tout début du roman, vous dites « Pour témoigner de ce qui arriva ensuite, il faudrait peindre le silence avec des mots. Même si les mots ne suffiront jamais à traduire une réalité, et ce n'est pas nécessaire, il le faudra pourtant. » Et au début de « Fenêtres sur Terre », il y a ce poème au commencement. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, mais est-ce que vous souhaiteriez le lire?
Je peux, oui. Au commencement, il suffit d'un mot posé sur un billot et de le fendre en deux pour en faire jaillir un bruit, un démon, un ange ou encore un silence. Il suffit d'une phrase pour dire la saison, les corps dans les flammes, la rivière souterraine.
Et alors ce poème, au commencement, vous dites il suffit d'un mot posé sur le bio. Il y a une manière incroyable que vous avez parlé du langage comme si c'était un artisanat, c'est-à-dire quelque chose de palpable. Est-ce que quand vous utilisez les mots, la prose, la poésie, vous la voyez comme un artisan travaillerait le bois? C'est quelque chose que vous pouvez quasiment toucher?
Oui, mais avant, il faut avoir la matière. C'est-à-dire qu'on fait pas de, on le fait pas avec rien. Donc il y a quelque chose de l'ordre du surgissement. On ne sait pas trop d'où ça vient. Moi, je ne sais pas trop d'où ça vient, si ce n'est de quelque chose de l'enfance, toujours, hein, des images très très fortes. Mais après, cette image de l'enfance, ben, il faut la fendre en deux. Ouais, il faut l'ouvrir. Et on ne sait pas ce qui va en sortir. Mais et là, après, ça devient de l'artisanat, effectivement. Tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la projection physique sur des cahiers, c'est-à-dire j'écris à la main sur des cahiers parce que je ne peux pas faire autrement. Cette première phase, elle engage tout le corps. Une fois que ça, c'est sur cette pâte, comme vous voulez, cette espèce de morceau de bois qu'il faudra, il faudra le sculpter après. Il faut que ça ressemble à quelque chose. Il faut qu'on en soit à peu près fier, au bout du compte. On sait que ça ne sera pas parfait, mais au moins... Ça sera ma propre sculpture, ma propre et ça, le façonnage, il se fait. Moi, c'est en général au moins 6 versions de chaque livre, quoi. C'est de retravail d'artisanat pur. Donc, il y a une phase qui est, je saurais pas vous expliquer, parce que dans la mesure où, à partir d'une image comme ça, je parle du mot posé sur le bio, ou pour être plus clair, de l'image. Mental qui va surgir, à partir de cette image mentale qui va se retrouver sur 2 ou 3 cahiers, de cette pâte plus ou moins informe, il y a des choses qui ne seront pas nécessaires de retravailler, mais voilà, il va falloir. Ça rejoint ce que vous disiez quand vous parlez du silence. C'est que voilà, quand on se relie et quand on veut retravailler, on s'aperçoit que les mots ne suffisent pas la plupart du temps. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est facile de donner du sens à une phrase, sujet, verbe, complément, puis on passe à une autre, et on fait une histoire comme ça, on raconte des choses. Mais le plus obsédant, ce qui m'obsède, c'est ce qui se passe entre les mots. Et parfois la façon de les tourner, de les accoquiner, qui fait que le sens est dépassé par l'émotion de la musique, de la musicalité ou du rythme. Et ça, c'est fascinant. Et je crois que l'obsession de tout écrivain, c'est de faire parler le silence, justement. Il y a quelques dialogues aussi dans ce livre-là. C'est quelque chose qui me fascine aussi. C'est dans ces gens-là que j'ai pratiqué toute ma vie, ces fameux taiseux-là. Je trouve que c'est un peu galvaudé comme mot, parce qu'ils sont pas si taiseux que ça. Hein. Ils parlent beaucoup, hein, mais ils disent pas. Et donc, il faut déchiffrer ce qui se passe entre ce qui est dit. Parce que ça sert la plupart du temps pas à grand-chose. Et en fait, la poésie se trouve entre ce qui est dit. Ça veut dire comment ils se tiennent, leurs mains, comment se tiennent leurs mains, leurs regards, voilà. La poésie, elle est là.
Vous parliez juste avant d'obscurité. Et dans Buveur de vent, vous faites référence à des lectures qui ont compté aussi pour l'amour de la littérature. On pense à Jack London, dont vous parlez dans Fenêtre sur Terre. Et dans Buveur de vent, vous parlez de L'île au trésor de Stevenson. Et Stevenson, il a écrit un petit essai au titre assez significatif, Les porteurs de lanterne. Est-ce que vous voyez comme aussi une sorte de porteur de lanterne qui, malgré l'obscurité, essaye de déceler quelque chose dans l'obscurité avec ce côté très enfantin. Voilà, ce sont des enfants qui s'amusent aussi à jouer avec ces lanternes et à essayer de distinguer quelque chose dans la nuit noire.
Bah, ça a dû me marquer. C'est le premier livre que j'ai lu, adolescent, le grand choc. Ouais, il y avait un lot et puis il y avait L'île au trésor, effectivement. Et je pense que on n'est pas loin de ça. Ouais. Ou les contrebandiers du Moonfleet. Ces pirates là qui suivaient la côte comme ça avec des lanternes pour essayer de traquer les navires qui allaient s'écraser. Les naufrageurs, merci. Ah, ça, c'est des, voilà, c'est des images qui marquent. Et puis, oui, enfin, les c'est vachement mystérieux, quoi, une lumière qui se balade dans la nuit. En plein jour, ça n'a aucun intérêt. Donc, en littérature, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est pas... j'en reviens, il y a un texte sur Soulages, par exemple. On dit que Soulages était obsédé par le noir. Mais non, il était obsédé par la lumière qu'il pouvait faire surgir du noir. Voilà. Eh bien, je pense que c'est aussi mon obsession. C'est la, voilà, faire surgir de la lumière, de cette... on dit souvent, vos romans sont noirs. Ben oui, je le reconnais, ils sont noirs, mais moi, les grands livres que j'ai lus, ils sont noirs. Hein. J'ai pas d'exemple de bluette qui m'est transcendé. Quoi. Il y en a peut-être, hein, je demande qu'à découvrir, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Il faut creuser l'humain, voir ce qui se passe sous la surface.
Vous acceptez de nous lire justement ce poème, Ma couleur.
Ah oui. Donc c'est un hommage à Pierre Soulages. J'ai 5 ans, je ne dors pas. La lumière des phares traverse les persiennes et barbouille un instant les murs et le plafond. À l'heure du coucher, ma mère a lu l'histoire du roi des éléphants. Ma sœur dormait déjà. Je n'ai retenu aucune image. Sur une double page, tous les anges du ciel chassent une cohorte de démons impassibles, prêts à faire demi-tour quand le champ sera libre. Depuis, je guette le retour des démons dans le faisceau des phares. Je cesse d'être un enfant. Le noir est ma couleur que hante la lumière.
Est-ce que vous passez, lors de l'écriture de ces poèmes, par la prose ou par le côté plus versifié, à un moment donné par l'oralité, un peu comme si vous écoutiez presque une chanson? Est-ce que, on parlait de Bachung avant, est-ce que ça doit donner l'impression que, en lisant le poème, c'est un peu comme si vous entendiez une chanson?
Ah oui, oui, oui. Même dans les romans, je m'enregistre, par exemple les dialogues, je m'enregistre et j'écoute, parce que l'oreille, c'est quelque chose... Un texte qui passe pas à l'oralité, c'est qu'il y a un loup, hein. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc oui, 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 oui. Alors sur ces petits textes-là, en plus, a fortiori, quoi, c'est tellement parfois ramassé qu'il faut pas que ça... Il faut pas qu'il y ait de fausses notes, mais c'est, j'utilise des termes musicaux, mais c'est vraiment ça. Quoi. Mais l'oreille, c'est quelque chose de très important. C'est comme tous les livres maintenant passent à l'audio. Je sais pas si vous avez écouté déjà. Il y a des livres qui passent pas du tout en audio. On ne devrait même pas les lire. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc, il faut faire confiance à son oreille.
On en parlait juste avant. La figure de Faulkner est très importante. Il y a d'ailleurs cette très belle image en noir et blanc, on voit une des photographies les plus célèbres de Faulkner, dont enfin, Pierre Michon parlait comme le patron, ouais, de la littérature. Il a un très beau texte dans 3 auteurs où c'est le patron, quoi, avec notamment Absalon. Si vous acceptez, je vais vous laisser déjà nous le lire.
Oui, ce texte de Michon est extraordinaire. Il est parti de la photo de Faulkner où on le voit, il a une trentaine d'années avec son pardessus gris. Il n'est pas encore Faulkner, mais il se rêve Faulkner. Il a une ambition folle et cette photo est extraordinaire. Et le texte de Michon, ça s'appelle Parabole à William Faulkner. Petit homme du Sud, débouté par le temps au fond d'un sanctuaire. Dans sa veste de tweed, cravate de travers, il a cet air absent, comme s'il ne voyait pas, ne voulait rien offrir qui ne fût dans ses livres. Quand s'éteint la lumière, ces mots sont toujours là, nés du Yoktapanapha, où coule un sang noir dans les veines des hommes, où le tonnerre gronde et le chant des esclaves.
On parlait justement de photographie avec cette image de Faulkner. Est-ce que le choix aussi des photographies, est-ce que c'est presque un texte aussi comme un autre, comme si la photographie était aussi un texte et qu'elle dialoguait avec les poèmes eux-mêmes? Comment c'est agencé aussi on peut presque dire ce dialogue-là entre une image et un texte?
Oui, parce que les photos répondent pas du tout au texte. Hein. C'est comme si effectivement ça racontait une histoire. C'est toujours pareil. Hein. Moi, c'est des photos qui me révèlent des émotions. Et je voulais que les photos soient traitées comme le texte, que ce ne soit pas un objet de luxe avec des photos sur papier glacé. Je voulais que ce soit traité pareil. Je voulais même les pixeliser encore plus pour que ce soit... je voulais aussi que le format soit pas un format poésie, etc. C'est un livre comme un autre, quoi. C'est pas de, il y a pas de différence. Chaque texte, c'est le début ou la fin d'un roman. Après, à vous de l'écrire, si vous avez envie. Il y a des personnages de mes romans qui se retrouvent dans ce livre. Vous allez retrouver Rose pour ceux qui ont lu N'est d'aucune femme. Vous allez retrouver Léonard pour ceux qui ont lu Glaise. J'ai bouché quelques trous comme ça, quelques petites lacunes, et puis après au lecteur de se débrouiller avec ça.
Mackenzie Orcel, un écrivain haïtien, et Haïti, la poésie est extrêmement importante. Souvent, on est poète avant d'être romancier. Comparait les romans à des fleuves et la poésie à un parfum. Est-ce que vous retrouveriez dans cette comparaison-là?
Les poèmes à des fleuves.
Les poèmes à des parfums. Poésie, c'est ce qui relève plus du parfum. Et le roman avec ce côté fluvial qui vous emporte.
Je ne sais pas si j'aurais utilisé la comparaison avec le parfum. C'est trop restrictif, je trouve. Parce qu'il y a de la couleur aussi. Il n'y a pas que le parfum. Et puis le roman, pourquoi les romans ne seraient pas parfumés et puis colorés En revanche, ce qui est sûr, la comparaison qui est certaine, c'est qu'il faut avoir un souffle, quelque chose de, voilà, un roman. Quand on s'embarque dans un roman, il faut être un peu inconscient, hein, parce qu'on sait qu'on s'embarque justement sur ce fameux fleuve, et on ne sait pas où il va nous mener, et on ne sait pas si le navire va tenir. Si la construction sera suffisamment solide pour arriver au bout, hein. Et on ne sait même pas si le fleuve va pas s'arrêter brusquement et se fracasser sur un arbre. Donc je trouve un peu restrictif cette comparaison.
Dans la genèse de ce recueil Fenêtre sur Terre, comment ça s'est opéré? Est-ce que vous disiez très justement que chaque poème pourrait être le début, ou chaque texte le début d'un roman? Est-ce que c'est comme une sorte aussi de plaisir d'écriture du fait de sa brièveté ou de sa fulgurance par rapport à un roman, notamment les derniers, N'est d'aucune femme, Buveur de vent, où il y a une ampleur, une amplitude qui sollicite plus de temps? Là, on peut être peut-être sur un temps quand même qui est plus court.
Oui, c'est toujours cette idée de l'image comme ça, il marchait sur la route couleur pierre de fusil, chacun tout l'univers de l'autre. Putain, j'aurais aimé écrire ça, quoi. On y est, quoi. On voit tout de suite un homme et un gamin qui marchent sur une route. Et on imagine tout le reste après. Ça, c'est fabuleux. Vous lisez T.S. Eliot, Les Hommes de Paille, ou je sais pas, ou un poème de Baudelaire, de Char. Ça vous prend comme ça, en trois lignes. Vous avez toute l'humanité qui est condensée. Et après, votre imaginaire fabrique le reste.
Vous avez une pratique de la poésie assez jeune, c'est venu à quel moment? Et est-ce que les poètes se sont comme ça un peu entrechoqués? Dans Buveur de vent, vous citez un magnifique extrait à la fin de Walt Whitman, Feuillet d'herbe. Ça a été quoi d'abord, une poésie américaine, anglaise et ensuite française? Comment ça s'est fait?
Bah, j'en lis depuis toujours. Hein. Sur mon bureau, il y a plein de poètes. C'est toujours j'en picore régulièrement. Baudelaire, clairement, pour moi, c'est fabuleux, quoi. Vous pouvez relire ça toute votre vie, quoi. C'est incroyable. Et c'était un laborieux, contrairement à Rimbaud. J'aime beaucoup Rimbaud, mais voilà, Baudelaire, pour moi, c'est... Et Char, Guilvic, enfin, des gens comme ça. Mais c'est tardivement que je suis allé vers les Américains. J'ai découvert Eliot, Whitman, Dickinson, etc. Mais comme je suis autodidacte en tout, c'est au hasard de mes découvertes.
Et est-ce que vous le faites, ou vous avez fait l'apprentissage aussi par cœur du poème, comme si on récitait une sorte de mantra? Est-ce qu'il y a des poèmes qui continuent comme ça, courts ou longs, à vous accompagner, qui constituent presque votre constitution physique, quoi? Ça fait partie de vous?
Pas du tout. Je crois que je suis un très mauvais lecteur. Je pas du tout scolaire. J'apprends, je, je retiens mal, sauf parfois des comme ça, une ligne, deux lignes, trois lignes. Je sais pas pourquoi elles m'imprègnent comme ça et je suis capable après de la. Il me semble que je l'ai oublié, mais pas du tout. C'est là, voilà, ça me stratifie. Et plutôt que d'apprendre par cœur comme ça 3-4 pages de poésie, ben voilà, sûrement que je suis constitué comme ça, c'est que je vais picorer comme ça chez plusieurs poètes et faire une comme ça une espèce de stratification qui fait que ben que tout ça à un moment donné ça va sûrement me servir à quelque chose aussi. Ça c'est aussi de ça participe de mon terreau avec tout le reste. Voilà, la germination sera meilleure sûrement, enfin, en ce qui me concerne, avec plusieurs terres végétales comme ça mélangées qu'avec une seule.
Est-ce que votre attitude physique quand vous écrivez, elle est différente entre la poésie et le roman? Est-ce que ça se traduit aussi physiquement dans la manière dont vous construisez presque corps à corps le texte?
Non, c'est pas différent. C'est pas différent. Ce qui est un petit peu différent, c'est quand je reviens dessus, je dis que j'y arriverai jamais. Il y en a, j'ai jamais abandonné un roman jusque-là. Des poèmes, j'en ai abandonné, plein. C'est-à-dire, j'y arrive pas. Je pars comme ça avec 7, 8 lignes, 10 lignes, 20 lignes, et puis je barre. Il y a des flèches partout et tout, puis ça marche pas. Donc voilà, j'y renonce. Mais sinon, l'engagement est le même.
Et est-ce que vous pouvez ne pas terminer un poème juste parce qu'il vous manque le dernier vers ou la dernière ligne? Il faut qu'il y ait cet aboutissement. Ça peut se jouer sur le dernier mot où vous dites « c'est pas ça ».
Ah ben ouais, complètement, ouais, complètement. Il faut que c'est pas tellement. Il faut que ça se termine sur forcément un aboutissement, mais il faut que ça se termine sur un inachèvement qui puisse déboucher sur quelque chose, qui puisse ouvrir sur quelque chose. Parce que c'est jamais une finalité. Le dernier mot ne doit pas être une finalité. Ça doit ouvrir. Ça ne doit pas fermer. C'est comme un livre. Quand on termine un roman, il ne doit pas être replié sur lui-même. Il ne faut pas que ce soit, comme disait Walter Benjamin, le masque mortuaire de ses propres intentions. Et un livre doit se terminer, un poème doit se terminer, mais il ne doit pas s'achever. Et je le dis souvent, hein, il doit juste tendre une passerelle comme ça. Voilà.
On a évoqué Faulkner, Giono, il y a une grande figure aussi américaine, c'est Cormac McCarthy, avec vous lui consacrez un poème magnifique.
Ça, c'est vous qui allez le lire.
Méridien de poussière à Cormac McCarthy. Ils sont venus la nuit, les autres se tenaient près du feu. Ils se sont assis en silence. Les autres ont fait tourner une cruche d'alcool. Ils ont bu et un a craché sur les flammes. Les autres ont regardé les braises agacées. Ils ont demandé comment se nommait l'endroit. Les autres ne parlaient pas la même langue. Ils se sont mis à rire comme des damnés. Les autres n'ont pas compris ce qui les faisait rire. Ils ont fait voler la poussière. Les autres ne l'ont jamais vu retomber. Ils sont partis bien avant l'aube. Le feu brûlait encore, faisait luire le sang. Au loin, une femme berçait un enfant endormi. Et là, on voit à quel point les images aussi. Est-ce que vous fonctionnez avec des sortes, on a presque l'impression que vous avez des images mentales comme ça qu'il faut réussir à mettre en mots, mettre en langage, mettre en verbe?
Ben, c'est exactement ça, oui. Ce sont des images mentales. Après, il faut les traduire. Je serais peintre, ben, j'aurais peint ces images-là. Si j'étais musicien, j'aurais fait un morceau de musique. J'aurais fait une chanson avec ça. Comme je suis ni doué pour l'un ni pour l'autre, ben, j'essaie de le faire avec des mots. Mais je suis autour du feu, quoi. Enfin, en tout cas, je vois ce qui se passe. Après, faut le traduire. Faut le traduire. Bon, évidemment, ça fait c'est un hommage à Méridien de Poussin, de Méridien de Sang, pardon. Et cette sauvagerie absolue qu'il y a dans ce livre, et pourtant, il y a de la lumière partout. C'est ça qui est extraordinaire dans l'écriture de McCarthy. ceux qui n'ont jamais lu McCarthy, mais enfin, après, on peut ne pas aimer, mais j'ai du mal à croire qu'on ne puisse pas aimer De si jolis chevaux, par exemple, sont les plus belles pages sur l'adolescence que j'ai jamais lues. Ces deux adolescents qui partent comme ça au Nouveau-Mexique, d'autres chevaux et qui dorment dans le désert, c'est magnifique. Et après, ça, voilà, il se passe autre chose, évidemment, mais c'est... Bah, comment ce type-là n'a pas le prix Nobel, quoi. J'aime bien Bob Dylan, mais quand même, quoi. C'est vrai. Ouais.
Vous parlez dans vos références aussi de René Char. René Char, dans Fragments d'hypnose, il a cette phrase qui correspond aussi à ce que vous faites, parce que Fenêtre sur Terre, ce sont aussi des portraits de... Voilà, c'est taiseux, cette expression qui correspond pas forcément. Il dit « le poète, ce conservateur des visages infinis du vivant ». Est-ce que ce texte aussi, Fenêtre sur Terre, c'est une manière de conserver, comme des photographies avec des mots, les visages d'anonymes qu'on ne connaît pas et de ceux qui passent, et l'idée c'est de les saisir un instant sur la page pour ne pas les oublier, ou pour que vous ne puissiez pas les oublier, qu'ils restent là.
Bah oui, bah évidemment, témoigner pour ceux qui n'ont pas forcément les mots ou les armes pour témoigner. Mais c'est un Curtis qui va photographier les derniers années d'Amérique pendant 25 ans, quoi, pour qu'il reste ça aujourd'hui. Donc, il y a des textes où, moi je sais qui sont ces gens-là, évidemment, mais ils sont tellement imprégnés en moi, jusqu'à la fin, ils sont tellement, ils m'habiteront tellement profondément qu'au moins ça existera. Ces images mentales, les gens feront ce qu'elles voudront, mais en tout cas elles existeront. Et puis c'est pas forcément un portrait, réaliste. C'est pas forcément, mais ça peut être à travers un vêtement, et un vêtement qui va traduire tout le désir, la sensualité, la force, la puissance d'un être qui nous est cher, quoi. Voilà, très très cher, oui.
J'hésite entre Léonard et Marie. Est-ce que vous accepteriez de lire l'un des deux ou les deux?
On en lit un chacun. Je vous laisse choisir.
Vous lisez Marie, je lis Léonard.
Ça marche. Marie. Elle se lève à 5 heures, n'a jamais eu besoin de réveil, glisse ses pieds dans les pantoufles de feutre, rejoint la salle de bain et se lave au-dessus du bidet, puis du lavabo, et brosse ses cheveux en inclinant la tête, chausse ses lunettes, passe une robe qui lui tombe aux genoux, masquant en partie les varices sur ses jambes de 30 ans, semblables aux méandres de rivières boueuses. Enfile la blouse et la boutonne, 3 aiguilles à couture piquées dans le tissu entre l'épaule et le sein gauche, comme les barrettes d'un officier. Se met aux ordres du jour, traverse la cuisine et troque ses pantoufles pour une paire de souliers. Sort dans la cour, escortée par de bruyants moineaux, se rend dans le jardin, où quelques vieilles planches abritent les toilettes. Revient dans la cuisine, toujours la première levée. Sa fille et son fils dorment encore, et sa mère, que les enfants appellent la petite mémé, ne devrait plus tarder à la rejoindre. Enflamme le petit bois dans le fourneau, met du lait à chauffer dans une casserole, puis de l'eau dans une autre pour faire le café. Les grains sont broyés de la veille, à cause du bruit d'enfer que fait le moulin. Écoute un moment le silence se promener entre les mouvements du balancier de la pendule, et le crépitement du feu finit par en venir à bout. Verse du lait chaud dans un bol, puis ajoute un peu de café. S'assoit et boit, les yeux fixés sur la photo de celui qui survécut à la guerre. 1 an aujourd'hui qu'un taureau furieux l'a fait sauter en l'air, avant de le clouer au tronc d'un être pourpre.
Léonard. L'horloge carillonne et il compte les coups, de même qu'il l'a fait une heure auparavant. Le tic-tac, il ne l'entend plus, comme la mécanique du cœur. Le temps l'a usé au corps. Le dedans s'est courbé, abîmé, calcifié. Le dehors s'est tassé, fissuré. L'âge est venu à lui sans qu'il s'en aperçoive. Sa vieille l'a suivi autant qu'elle l'a pu, puis s'est laissé couler. On l'enterre demain. Assis à la table de la cuisine, il enferme un poing autour de ses doigts et des veines s'engouffrent sous les manches du pull, puis il secoue la tête et hausse les épaules en regardant la porte de la chambre. « C'était bien temps que tu t'en ailles. Le cochon n'est pas tué. » Et là, c'est vrai qu'avec ces deux personnages, Léonard et Marie, ça pourrait être des cousins, des frères et des sœurs d'un roman comme « Né d'aucune femme ». On parlait avant de Giono et Faulkner. Il y a aussi une très belle manière de rappeler la mythologie aussi de nos existences et la mythologie de ces territoires-là avec un poème qui s'appelle « Odyssée ». Est-ce que la littérature, c'est une manière encore de croire qu'on a la possibilité de vivre dans des lieux qui restent mythologiques? Votre lieu d'écriture, pour vous, est-ce qu'il est mythologique?
Ben en tout cas, j'essaie de faire en sorte qu'il le devienne. C'est-à-dire que l'écriture permet ça, de créer cette mythologie. Alors dans Buveur de vent, c'est assez flagrant parce que j'ai déployé une. Alors on est dans une vallée perdue et forcément j'ai pu déployer cette mythologie-là. Mais ben, si les romans visent pas à créer une mythologie, ben, quel est l'intérêt, quoi? Et là, on dépasse justement, on dépasse le réel. Le réel n'a pas grand intérêt, sinon de rassurer ceux qui ont besoin d'être rassurés par ce réel-là. Je trouve plus intéressant de partir de cette base-là, effectivement. Et puis, encore une fois, on revient aux images, c'est-à-dire d'en faire autre chose de ce réel-là, de le transcender, de le bousculer, et du coup d'une petite vallée perdue comme ça qui existe bel et bien, ben d'en faire un monde, voire même un univers, quelque chose qui se déploie comme ça, et dans lequel ben le lecteur, par exemple, tout comme moi quand je l'écris, n'est pas du tout en sécurité. Il n'est pas du tout en équilibre. Et les grands textes, c'est ce merveilleux déséquilibre que vous avez quand vous êtes là. C'est-à-dire, vous êtes pas là à vous dire « Ah ouais, parfait, je sais à peu près comment ça va finir bien. » Non, vous ne savez pas du tout où vous allez. Mais il faut accepter ça. Il faut accepter de pas savoir où vous allez aller, de faire confiance. Ça peut ne pas marcher, hein, mais ça, c'est à ce moment-là, on peut poser le livre. Mais en tout cas, il ne faut pas vouloir quelque chose d'un livre. Il ne faut pas demander quelque chose à un livre. Il ne faut pas vouloir s'identifier. Il faut se débarrasser de plein de choses quand on entre dans un livre. Il faut pas vouloir, quand on a aimé un livre, il ne faut pas demander à l'auteur de réécrire le même livre. Ou alors il va à la facilité. Essayez de lui faire confiance. En revanche, s'il est là, s'il est encore là, parce qu'il arrive que on, vous savez, c'est la théorie des fluides, hein. Je crois qu'un artiste, quel qu'il soit, c'est quelqu'un qui toute sa vie s'est rempli de quelque chose, qui se nourrit et qui se vide après. Et il y a des auteurs qui se vident au bout d'un livre. Il n'y a plus rien derrière. C'est dramatique. Au bout de deux livres, au bout de trois livres. Donc il y a toujours cette hantise là j'ai perdu le fil, du coup je sais plus ce que je voulais dire, mais ça devait être vachement bien. Enfin, vous m'avez compris.
Mais par rapport aussi, non, mais c'est, on est auteur parce qu'on est aussi d'abord lecteur et que
on parlait de nourriture, le travail d'un écrivain. Les gens qui me disent je lis pas, c'est suspect quand même. C'est lire. Alors ça devient de plus en plus compliqué de lire, surtout quand on écrit et quand on lit aussi beaucoup. J'imagine que vous devenez de plus en plus exigeant. On n'a pas envie de relire le même livre, justement. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, on devient de plus en plus exigeant. Ça ne nous suffit plus, l'histoire. Quand on écrit aussi, on voit tout de suite quand ça pend les ficelles. Là. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Bon, j'arrête. Allez, j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est terrible parce que souvent, on ne prend plus de plaisir. Et moi, j'adorais me retrouver cet emballement que j'avais quand j'étais ado, même plus tard après, à lire, Moby Dick ou L'île au trésor. Ça, alors là, c'est deux mauvais exemples parce que vous pouvez les relire. Hein. Moi, j'ai relu L'île au trésor, là, et puis Moby Dick. C'est deux chefs-d'œuvre. Moby Dick, c'est un des trois plus grands livres jamais écrits, mais oui, faut lire, ouais, faut continuer. Moi, il y a pas une journée sans lecture. Et après, on peut ne pas lire du roman aussi. On peut lire autre chose. Une discussion, il y avait quelque temps où je discutais avec un bibliothécaire comme ça qui disait à une de ses collègues qu'il valait mieux ne pas, parce qu'elle défendait le fait de lire, c'est-à-dire qu'il fallait lire à tout prix. Et lui disait, non, il vaut mieux aller se balader dans la nature que lire un mauvais livre. Et ça a travaillé quand je me suis dit, il a peut-être raison. Ouais. Ouais. Il a peut-être raison d'aller contempler quelques beaux arbres. C'est peut-être mieux que de lire un truc sans grand intérêt. Quoi. C'est pour désacraliser la littérature.
On en parlait au tout début, vous lui consacrez un texte magnifique à Bachung. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou conscientisé ou pas. Il y a deux textes qui s'intitulent « Apiculteur ». Et Bachung, il a fait une chanson magnifique qui s'appelle « Apiculteur ». Est-ce que c'était relié directement C'est-à-dire le fait à la fois d'écrire sur Bachung clairement et qu'en même temps, son influence irrigue d'autres textes.
Oui, alors il y a plein de petites références dans ce texte à ces chansons. Il y a Angora, enfin il y a Malax. Enfin, pour moi, ce type-là était assez génial. C'est ce truc-là incroyable que certains artistes ont de ne jamais vous raconter la même histoire. C'est très rare. Hein. Y a quelques romanciers comme ça, vous pouvez relire 4-5 fois le même livre, ils ne vous racontent pas la même histoire. Donc ça, je pense que quand on est lecteur, justement, plus on vieillit, plus on devient relecteur, je crois. Et quand on fait le compte, il reste quoi au bout d'une vie? Il reste entre 10 et 20 livres, je crois. À mon avis, hein, moi, si je devais, voilà, je me pose souvent la question, voilà, qu'est-ce qu'on garde? Je ne suis pas arrivé à 20 encore, moi. Voilà, des livres que je peux relire, que j'ai relus. Et bien, Bachung, quand vous écoutez La nuit, je mens, c'est incroyable, quoi. Vous pouvez l'écouter, moi, je peux l'écouter indéfiniment. Il ne me raconte jamais la même histoire. Selon mon état mental, émotionnel, je pose pas du tout les mêmes sentiments dessus, etc. J'ai fait La cour à des murennes. Non mais comment? C'est pas un texte de lui, hein, c'est un texte de Jean Fauque. Mais Jean Fauque, quand il a écouté la chanson, il a dit mais c'est moi qui ai écrit ça, parce qu'il a malaxé les mots, il a fait du Bachung quoi avec ce texte là. Il y a un album chef-d'œuvre absolu. Il n'y a pas une chanson artiste. C'est très rare. Souvent, il y a une ou deux chansons qui sont moins bonnes. C'est Fantaisie militaire. Tout est incroyable. C'est un chef-d'œuvre, cet album-là. Bleu pétrole aussi, après, est très très bon. Mais Fantaisie militaire, c'est. Donc voilà. Donc cet album-là, je le place au-dessus de tout ce qu'a pu faire Gainsbourg, par exemple. Parce que voilà, il a fait un truc. Fabuleux. Alors, je ne suis pas forcément très amateur de ce qu'il a fait avant. Il y a des choses que je voilà. Mais il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc à un moment, je ne saurais pas dire quoi, mais ouais, il a trouvé quelque chose. Il a creusé, puis il a trouvé l'eau à un moment, je crois.
et du fait que on en a parlé, la musicalité, parce que le son précède le sens. Est-ce qu'à ce moment-là, quand on écrit, on met de la musique ou surtout pas, puisque voilà, ça vient empêcher aussi ce silence dont on parlait avant.
Ah non, ça peut être... Non. J'écoute souvent de la musique, moi. Ouais. Alors, c'est souvent du classique. Hein. Bach est un très, très bon compagnon. Ça permet d'aseptiser un petit peu votre univers mental qui est parfois foisonnant. Et donc, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'apaisement, comme ça. Et justement, le fait d'avoir de la musique, ça, vous ralliez le silence plus facilement. Donc, et puis c'est parfois nécessaire quand j'écris que je suis pas chez moi, sur une terrasse, etc., où il y a du bruit autour. Voilà, ça permet de s'isoler aussi. C'est un bon véhicule, la musique.
Et est-ce que les compositeurs classiques changent selon les romans ? Est-ce que pour Buveur de vent, c'est Bach, et je sais pas, pour N'est d'aucune femme, c'est Mozart ? Ou il y a quand même des invariants qui reviennent ?
Alors, en général, j'écoute toujours la même chose sur un même livre. Voilà. Je pourrais vous le dire sans problème. Voilà. Alors, c'est pas forcément du classique. Je me souviens que pour Grossir le ciel, c'était Anthony and the Johnsons, I'm a Bird Now. J'ai écouté l'album en boucle tout le long. Alors, pourtant, il y avait. Alors, c'est de l'anglais, je suis pas. Voilà. Dès que je pense à Grossir le ciel, j'ai la voix extraordinaire de Anthony. N'est d'aucune femme, c'était Bach, ouais, par exemple. Les suites. Buveur de vent, c'était Schubert.
Et quand c'est des textes courts, des poèmes, est-ce que là, est-ce qu'il peut y avoir une chanson ou non ? C'est parce que c'est le rythme d'écriture ou la manière dont c'est écrit n'est pas la même.
Ah, vous venez de mettre le doigt sur un truc auquel je n'avais pas pensé. Aucun n'a été écrit en musique. Aucun. Ouais, ça, oui, ça, j'avais pas pensé. Ouais.
Vous accepteriez de nous lire très court, mais très dense aussi. C'est ce qui est très beau. Il y a des textes qui sont extrêmement denses. Écrire.
Ouais. Écrire. Par une nuit profonde, j'ai cueilli quelques fruits aux couleurs de la lune, récolté leurs pépins pour les faire germer. Ils deviendront des arbres qui pousseront sans doute, guidés par la lumière.
Et je voulais terminer avec ces deux phrases de, vous en avez parlé plusieurs fois, de T.S. Eliot, parce qu'il y a chez vous cette idée d'explorer des contrées intérieures et qui est toujours, il y a fenêtre sur terre, c'est l'horizon aussi. On regarde vers quelque chose qu'on ne connaît pas et T.S. Eliot disait, nous ne cesserons pas d'explorer, et la fin de toute notre exploration sera d'arriver là d'où nous sommes partis et de connaître ce lieu pour la première fois. Est-ce que l'écriture aussi de poésie, c'est un regard nouveau sur les choses, comme si on les voyait pour la première fois ?
Du coup, c'est pas différent du roman. Ouais, c'est exactement la même chose. Ouais. C'est comme si on les... Parce que sinon, on arrêterait d'écrire, quoi. Parce que finalement, on n'écrit pas le même livre, mais on est toujours sur les mêmes obsessions. Et le fait d'avoir cette faculté mentale, d'avoir l'impression de redécouvrir les choses, mais par un biais différent, c'est-à-dire vous ne prenez pas le même chemin, vous n'utilisez pas la même histoire, mais au final, vous allez au même endroit. C'est comme ça une espèce de carrefour de carrefour de votre humanité, je crois, où ça se concentre là. Et finalement, c'est ce que vous êtes, ce carrefour. Donc on fait semblant enfin, on fait semblant, on fait pas semblant, mais on part dans une autre direction. Et c'est marrant, mais on y revient, quoi. On y revient. Et j'espère que ce carrefour a encore quelques bifurcations.
Merci beaucoup, Franck Bouys. Fenêtre Merci. Sur Terre aux éditions Phébus. Merci à vous.
Merci.
Et vous pouvez retrouver Franck Bouys, c'est L25, c'est juste voilà, à droite. Merci.